8h56, c'est 14 degrés sur Québec. Pour aujourd'hui, on nous annonce un genre de 25. Température ressentie possible avec le facteur humidex de 29. Ce soir, cette nuit, c'est quelques nuages avec un minimum de 12 degrés. Demain, mercredi, déjà généralement ensoleillé avec un maximum de 25. Jeudi, ensoleillé, maximum de 27. Vendredi, du soleil aussi. Peut-être des probabilités d'averse en après-midi, maximum de 22. Mais bref, on va avoir une belle semaine de travail. Une semaine écourtée par lundi qui nous a été amputé. Max voulait travailler. Jeff voulait travailler.
Ça m'a mélangé.
Et j'ai dit, les gars, on célèbre la fête du travail en travaillant pas. Oui. Donc, on n'est pas rentré hier matin. Puis, on s'est reposé. Mais bref, ça va être une super de belle semaine au niveau de la météo. Vous savez les choses à nous dire. Il se passe quoi que ce soit sur la route. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Jeff?
Ça m'a mélangé, ce fameux congé de la fête du travail, parce que je me pensais lundi lorsque j'ai dit « Les billets des capitales en vente à compter de 9h ce matin. » C'était hier matin. Il n'en reste plus.
Bon. Il n'en reste plus déjà.
Il n'en reste plus déjà. Stade sera sold out
où tu vas
pour le match numéro 2.
Où tu vas l'amener ta prochaine 3. Date?
Je sais pas, Colin. Prochaine fois, il va falloir que je sois plus vite sur la gâchette.
T'essaieras de pogner les balles dans le stationnement, tu sais, les fausses balles.
Ça, je me demande, j'aimerais ça checker une game du stationnement, juste voir.
Quand ça part, puis le terrain de tennis, il y a de ça peut-être un mois, j'avais été avec mon gars au capitale de Québec, puis il y a eu une fausse balle qui est arrivée directement sur le terrain de tennis. Je suis pas sûr que les gens sont en sécurité. Là. Quand tu reçois une balle comme ça en arrière de la tête, ça doit être assez raide.
Mais pour vrai, ça pogne-tu des... C'est clair, ça pogne des chars.
C'est sûr que ça pogne des chars. C'est sûr que ça pogne.
C'est clair. T'en souviens-tu quand les Alérions du séminaire de Québec jouaient au football sur le terrain du stade municipal à l'époque, qui n'était pas le stade Canac?
Ouais.
Ils faisaient des bottées de placement et ça pouvait traverser la clôture du champ là, parce que le terrain de football était mis à la largeur.
Ah ouais, je me souviens
bien. Ben, moi et mes chums, on regardait le match en montant sur la clôture et quand le ballon traversait la clôture, on partait à courir, on volait le ballon pour se sauver en courant.
Ah, je te dis, les petits bums de la basse ville.
Et voilà.
Quel plaisir de l'accueillir. C'est un planificateur financier, c'est un analyste financier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup écouter en chronique, c'est Marc-Antoine Reid. Salut Marc-Antoine.
Hey, bonjour à vous trois.
Très content de te jaser. J'ai pensé à toi en fin de semaine.
Ah ouais.
J'ai dit, de quoi je vais jaser avec? Parce que lui, c'est sûr qu'il va nous arriver avec des sujets. Moi, j'ai le goût d'y parler de ça aussi. Tu connais Michel Girard, du Journal de Québec?
Oui.
Qui pond des papiers, des fois, que je me dis, d'après moi, les gens du gouvernement, dans leur party de Noël, doivent mettre une genre de cible là, avec la face de Michel Girard.
Il joue
c'est
d'or,
un jeu d'or. Il critique un peu le gouvernement parce que le gouvernement ne nous... Il nous motive pas à avoir plus d'un emploi. Si on a deux emplois, ben calcule bien tes affaires parce que ça se peut que le gouvernement t'ampute un peu plus au niveau des impôts. C'est catastrophique de voir ça au niveau des finances, que des fois, ben, le gouvernement décide d'en prendre un peu plus parce que tu travailles plus.
Ben, en prendre un peu plus, en tout cas, je peux te dire, ça demande plus de planification, ça c'est certain. Puis il y a plusieurs personnes qui se font prendre parce que les systèmes de paye, tu sais, l'impôt, ça fonctionne par tranche. Puis les systèmes de paye prennent pas en considération ça. Ça fait que les gens se retrouvent avec l'argent dans leur compte. Malheureusement, la plupart des gens, ben, ils dépensent l'argent qui est là. Puis à la fin de l'année, arrivent les comptes. Puis là, définitivement, il y a une facture, il y a une facture d'impôt qui est là.
J'ai jasé avec un solide travailleur de 82-83 ans. Il travaille à la quincaillerie qui est sortie. Quand tu sors du pont de Québec, là, c'est-tu un Home Depot? Quand tu sors du pont de Québec sur la rive sud à droite, là, je pense que c'est un home dépôt de
Power
mémoire.
Center.
Puis j'étais en train de me couler un café au petit dépanneur, puis il était là. Tu sais, puis là, il était habillé en home dépôt. Puis là, je dis comment ça va? Ça a-tu bien été au home dépôt aujourd'hui? Puis il me dit oui, ça a bien été. J'ai dit barouette, vous êtes encore actif? Il dit ben j'ai pas le choix. Il dit faut que je travaille. Il dit moi, je resterai pas à la maison, je viens faire mon social. Mais il dit faut pas que je travaille trop parce que sinon, on va m'amputer sur ma rente.
Ouais, la pension sécurité de vie.
J'ai souvent entendu ça.
Chose que je savais pas, Marc-Antoine. Je me dis, mais attends un peu, pour encourager ces gens-là à rester sur le marché de l'emploi, il devrait y avoir des incitatifs pour les garder là.
Il faut qu'ils se limitent dans leur nombre d'heures.
Parce que c'est clair que plus il va rester à travailler physiquement puis mentalement, c'est clair qu'il va, y a plus de chances qu'il s'éloigne des hôpitaux. Oui,
absolument.
Lui, il me disait qu'il faut pas qu'il, t'sais, il avait sa pension, mais il ne faut pas qu'il travaille trop, sinon il allait être amputé. c'est contre-productif.
Il y a plein de choses qui sont amputées, exact. Là, donc, dans le cas de ce monsieur-là, je ne sais pas exactement lequel des deux, mais si ses revenus sont faibles, il peut avoir le supplément de revenus garanti, qui est intéressant pour les gens qui n'ont pas pu ou parce que ce n'était pas possible ou parce qu'ils ont mal planifié, mettre dessous de côté, donc qui ont des faibles revenus. Il y a de l'aide additionnelle. Pour ceux qui ont un peu mieux planifié ou qui sont mieux nantis, bien là, il y a la pension de sécurité de vieillesse qui peut être récupérée au complet. Là. Donc, j'arrondis les chiffres, là, mais mettons un peu en haut de 90 000, elle commence à être récupérée, puis passé 150, il n'y en a plus. Fait que même si la personne a financé ça, elle ne le reçoit pas.
Oui. Puis, tu sais, quand tu n'as pas de comptable qui est là pour t'informer, quand tu n'as pas de planificateur financier qui est là pour t'informer, des fois, ton employeur peut te donner un bonus de 5 000 $. Ah, ben garde, tu as eu une belle année, moi, je te donne 5 000, puis là, tu changes de braquette. Puis là, finalement, tu te dis, tabarouette, c'est comme si je ne l'avais pas eu.
C'est vraiment deux emplois. Là, les gens qui ont deux, trois jobs, là, ça fait mal si ce n'est pas bien prévu à la fin de l'année parce qu'il n'y a pas beaucoup d'impôts qui sont retenus à chaque. Dans le cas d'un bonus, les systèmes de paie sont un petit peu, sont pas si bien faits que ça. Ils ont tendance à reproduire, à dire comment tu as gagné cette semaine-ci, fois 52, on va retenir le taux d'impôt. Ça fait que quelqu'un qui a des gros bonus, du moins, là, avec un bon salaire, souvent, ça va être l'inverse. Il va se faire retenir trop par sa paye sur son bonus. Mais là où est-ce que c'est problématique, c'est vraiment deux, trois emplois. Mettons quelqu'un qui chauffe un taxi le soir puis qui a un autre job. Là.
Ouais.
Ça demande de la planification. Il faut mettre de l'argent de côté à chaque paye ou du moins d'avoir des réserves pour payer sa facture à la fin de l'année. Là.
Marc-Antoine, c'est quoi les meilleurs trucs justement pour s'enrichir personnellement si c'est pas d'avoir deux jobs parce que là, c'est complexe,
ben,
c'est avoir
ça,
trop d'argent.
Dans le fond, c'est une belle introduction un peu, ce qu'on souhaite. Puis là, sans revirer le monde à l'envers, moi je dis toujours, il faut pas trop se revirer de ce qu'on n'a pas fait dans le passé, mais faire le mieux possible à partir de maintenant, puis d'aller chercher toutes les opportunités, d'éviter ces situations-là.
Parce que je vais te le dire, Marc-Antoine, il y a une rumeur qui circule au sujet des planificateurs financiers.
Ah oui, quelle est-elle?
Depuis que je suis jeune, ça a l'air que les gens n'ont pas les moyens d'avoir un planificateur financier parce qu'un planificateur financier, ça coûte cher.
Ouais.
C'est ce qu'on me disait quand j'étais jeune.
Ouais.
Puis le jour où j'ai eu le courage d'aller en voir un, parce que là, j'avais comme tout le temps deux ou trois emplois, il m'a dit, ben non, venir me rencontrer, ça coûte absolument rien.
Exact.
Moi, je vais t'aider et tout ça. Puis si on place ensemble, ben moi, je vais avoir des frais de gestion associés à ça. Mais t'as peu, là, ce gars-là m'a grandement aidé. Puis ça fait 30 ans, presque, je te dirais 25 ans que je suis en affaires avec lui. Puis je me passerais jamais plus de ce gars-là.
Ouais,
parce qu'il m'a fait sauver énormément de temps. Puis il s'assure, lui, que même si le gouvernement dilapide tout mon argent pour ce qui est de ma retraite, mais que j'ai 65 ans, bien, il s'assure que moi, de mon côté, j'ai ramassé assez pour pas être dans misère.
Oui, absolument. Puis il y a deux grandes choses. Là. Ben, un, tu as tout à fait raison. Là. La plupart des gens payent déjà des frais qui sont imbriqués dans leur choix financier ou dans leur produit. Donc, le planificateur financier, lui, il en rajoute pas là-dessus. C'est sûr que quelqu'un qui arrête toutes les... Mettons, si moi, personnellement, c'est mon métier... je le faisais 100% seul, je serais capable de couper un petit peu mes coûts parce que j'ai les connaissances, j'ai étudié là-dedans et j'ai l'expérience. Mais la plupart des gens payent déjà ce frais-là, soit avec leur banque ou à se faire guider. Fait qu'il n'y a pas de coût additionnel à le faire. Là, il y a deux éléments aussi que le planificateur financier, quand tu parles en bien de ton planificateur financier qui est concret, bien, un, il y a tous les trucs puis les conseils qu'on peut donner,
exact.
Mais c'est aussi l'influence. Dans le fond, si tu as une relation avec lui depuis 30 ans, c'est parce que tu lui trouves des qualités, t'acceptes d'aller rencontrer, t'acceptes que ses conseils te fassent réfléchir. Donc, cette influence-là, est sans doute, on commence à se connaître, là, mais elle est sans doute positive pour toi, puis elle t'amène à poser des bons gestes, puis à t'aider toi-même aussi. Puis ça, c'est mal mesuré, là, cette influence-là.
Je me souviens, j'étais petit cul, puis lui, il faisait ça de chez lui. J'ai regardé sa maison, j'ai regardé son char, je me suis dit, s'il est capable de me donner la même affaire, moi, j'embarque avec lui. Puis j'ai été le voir, puis ça a été une belle relation.
Ça fait une différence.
Ça fait une différence, parce que c'est touché, gérer de l'argent. Puis tous les programmes que les gouvernements en sortent pour, je sais pas moi, les règles aussi. Tu sais, tu connais pas ça quand tu as 20 ans. Tu connais
ça
pas ça quand tu as 25,
ça
quand tu as
30
ans.
Ça change beaucoup. Puis là, tu as tout l'autre facteur. Tu as le facteur aussi, même quelqu'un qui s'intéresse plus à ça et qui a plus de connaissances, tu as tout l'aspect humain. Là. Les erreurs, c'est la nature humaine. Puis là, vous savez... pas juste dans le milieu financier, on n'est pas tellement bon, l'être humain, pour s'introspecter soi-même. Je suis sûr que vous avez sans doute tous un bon chum là, qui a une portion de sa vie qui va un petit peu moins bien puis qui te compte l'histoire. Puis, voyons donc, je sais c'est quoi. je sais c'est quoi la problématique, oui. Mais lui, il est comme dedans, puis il voit pas l'espèce de...
Ben, le fameux « on a l'arbre dans le visage », puis on voit pas justement aux alentours les pistes de solution pour s'en sortir. Là, c'est exactement ce que le planificateur financier va faire.
Exact, c'est ça. Fait que, aujourd'hui, je proposais de vous donner des trucs de base. Commencer par une base solide. Là, on est début de saison.
Parce que moi, je veux devenir riche. Là.
C'est ça, ben il y en a plein... Puis c'est pas juste des trucs là, de dire hey, un retour d'impôt, aller chercher là. Là, oui, dans la saison, là, on va aller dans le plus spécifique, donner des petits trucs pour que tout le monde puisse aller chercher quelque chose. Mais on va vulgariser la finance personnelle, on va aider aussi les gens à aimer un peu plus ça. C'est, la plupart des gens, c'était une espèce de procrastination un petit peu à le faire. Puis je pense que quand c'est fait de la bonne façon, ça peut devenir intéressant. On va se faire inspirer de l'actualité aussi. Puis on va prendre des situations de la vie aussi, puis les regarder d'un angle financier, qu'est-ce que je fais si on se sépare ou si qu'est-ce qui change dans ma vie si j'ai mon premier enfant ou si je change de travail. Ça fait que c'est des sujets qu'on va aborder là, pendant la saison.
Ouais. On pourrait commencer par quoi? Tu sais, j'écoute Marc-Antoine Reed, je regarde mes finances. Bon, sont correctes mes finances, mais j'aimerais être capable de m'en mettre de côté. Je commence à regarder où?
Ben, c'est ça, moi je dirais la première chose, là, c'est tu sais... pas juste en finance, là, mais n'importe quoi part par prendre une décision. Ça, c'est, ce que j'encouragerais les gens, c'est de prendre une décision, de dire, écoute, mes finances, c'est un peu un mess ou il y a des choses qui pourraient être mieux. Je prends la décision aujourd'hui, je vais faire des efforts pour améliorer ça. Ça va être une case de ma vie auquel je vais accorder un petit peu de temps puis je vais m'en occuper. Puis juste avant de passer au prochain, il y a une analogie que j'aime bien donner souvent aux clients. C'est un peu comme un marathon. Yannick, tu fais beaucoup de sport. Je ne sais pas si tu as déjà fait, mettons, un demi-marathon. C'est peut-être plus rare, mais un demi-marathon ou un peu de course.
J'ai fait ça sur la rue Saint-Jean, sur la Grande Allée pendant une couple d'années.
À 3h30 pour faire. J'ai déjà fait ça moi aussi. Je restais proche de l'université. C'était, c'était une bonne course.
Oui, ben oui.
Non, faire sa part, quand on court le marathon, il y a différentes choses. Il faut gérer sa course. C'est du long terme, donc la durée est importante. Il faut s'entraîner de façon régulière. Après ça, il y a des bouts qui sont plus difficiles. Des fois, tu frappes des murs, tu as une crampe ou des choses comme ça. Ça arrive à tous les coureurs. Ça, on peut comparer ça à perte d'emploi ou période plus difficile des marchés. Après ça, bref, si tu pars trop vite aussi, tu peux avoir une contre-performance. Même chose avec la gestion de portefeuille. Si tu essaies de sortir la balle du parc, ça peut se retourner contre toi aussi dans ta course d'enrichissement.
Mais ça, vous faites l'analyse. T'es-tu un investisseur qui est extrêmement courageux, qui n'a pas peur du risque, ou t'es un gars qui veut y aller, mais prudemment?
Oui, c'est ça, exact. On fait l'analyse, mais je dirais, là, ça, c'est la contrainte. On ne peut pas aller plus fort, mettons, plus variable que ce que le client est capable de supporter. Exact. Le pire scénario, c'est qu'il abandonne le plan dans une période où est-ce que ça va être difficile. Là, c'est probablement la pire chose qui peut arriver. Mais on va plus loin que ça. On va éduquer aussi le client. C'est un de mes trucs là, que je voulais vous donner aussi. Mon cinquième, c'est d'éduquer le client au risque. Et ça, une des bonnes façons, il y a toutes sortes d'outils de démontrer le passé. Un portefeuille 1 000 $ investi en 1935 dans un portefeuille modéré. Je ne parle pas de quelque chose de dynamique. Là. Modéré, c'est quoi? C'est 60% de participation d'action, puis 40% de revenus fixes. C'est plus d'1,8 million que ça valait si on n'a pas touché à l'argent au 31 décembre 2024.
Je pense à toutes les gin tonic qui étaient à 3$ dans le temps.
C'est plus ça
que je t'ai payé.
Au Budweiser, 3-6 au Monkey.
Mais tu sais, quand tu reviens à penser à ça, tu sais, un investissement de temps rendu aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaudrait? C'est ça, c'est que des fois on dépense de l'argent à des endroits où on voit pas vraiment cet argent-là. Puis moi j'ai échangé, tu connais Stéphane Leblon chez Lobion et Associés?
Ouais.
C'est un de mes collaborateurs depuis des années, c'est un homme que j'adore. Puis il me disait, Yann, fais attention à ton argent parce que t'as vois pas passer. Si tu vas au Tim Hortons pour ne pas les nommer, ton café est à 3$, mais techniquement si t'es un employé quelque part, t'as travaillé pour 6$ parce qu'il est à peu près amputé à moitié là, de ton salaire. C'est sûr qu'il y a un peu d'argent qui va te revenir plus tard, mais ton café que tu payes 3$, t'as travaillé pour 6$. Là, il m'a fait paniquer là. Parce que tout est deux fois plus cher quand je l'achète maintenant. Fait que tu fais des choix plus judicieux, puis quand tu regardes dans ton mois, Marc-André, toutes les fois où un petit Ashton, un petit fromagerie Victoria, un petit Tim Hortons, un petit ci, un petit ça. Hey, c'est de l'argent que tu aurais pu mettre de côté aucun problème. Les jeunes, tu sais, ta génération, Max, là, qui se prennent des cafés à 10$.
Oh oui, je ne fais pas partie de ce trip-là, mais je confirme.
Ouais.
Si tu travailles à 20$ de l'heure, à la fin de ta semaine, ils vont t'amputer la moitié. Puis ton café de 10$, tu as travaillé une heure pour.
Ouais.
C'est fou quand tu
penses. Faut que tu fasses vivre un bon moment pour que ça vaille la peine.
Ah, clairement.
Quand tu avais des clients, parce que là, tu es rendu ailleurs au niveau de ta carrière, mais au départ, quand tu as commencé, il fallait que tu démontres à tes clients que des fois, il y a de l'argent qui se perd et qu'ils ne voient pas passer.
Ah, absolument. Puis c'est drôle, quand tes commentaires sont excellents parce que ça rejoint, tu sais, pas tout à fait dans l'ordre que. Mais ça rejoint les conseils que j'ai donnés. Faire un budget, ça en est un. Puis faire un budget, même pour moi, planificateur financier, c'est pas quelque chose de nécessairement agréable. Puis ça me sort de motivation. Tu sais, je veux pas avoir à trop le faire de façon serrée. Ça fait que ça m'amène à travailler plus fort, voir des opportunités. Puis ça m'a amené à croître ou à améliorer ma situation. Mais un des bénéfices de faire son budget, c'est d'être capable de repérer, de dire, maintenant, tu doses les choses qui t'accordent plus de plaisir dans la vie. Mais je pense que tu aimes le hockey, c'est un exemple. Mais puis tu listes, puis tu essaies de couper ceux-là qui. Tu sais, si tu as des choses qui ne coûtent pas tellement cher, ben fais-les, puis que tu adores, fais-les plus. Puis si c'est quelque chose qui coûte cher par rapport au plaisir qu'il t'apporte, mettons le café Starbucks dans le cas de Max, ben élimine-les.
Ton petit café citrouille, hein?
Tu sais, une date.
Comme
une date à espérer de pogner la balle en dehors du stade. Ça, c'est pas trop cher. T'as même pas besoin d'acheter le
Non, c'est ça. Ça va vendre. Démonter sa clôture.
Déjà qu'au capital, même avec des billets puis de la bouffe, c'est pas cher.
Non.
C'est sûr qu'ils vont déchanter, mais que t'es amènes en autobus aux Chutes Montmorency puis que ça va être ça, la date, se promener aux Chutes Montmorency pour ensuite revenir en autobus.
Faire une heure et demie d'autobus. Pour
c'est beau, je trouve. C'est un beau site bucolique.
Ben oui!
On a le premier, prendre la décision. Oui. On a le troisième que j'avais mentionné, faire un budget pour repérer les éléments où est-ce qu'il y a des dépenses futiles ou qui t'apportent peu. Pour arriver à réaliser le deuxième, puis tu l'effleurais un petit peu aussi, se fixer des objectifs.
Ouais.
Fait que dis-moi, le premier que je vous recommande, si vous ne l'avez pas, vous avez des dettes de carte de crédit, puis vous ne payez pas le solde au complet, c'est débarrassez-vous des mauvaises dettes.
Toujours.
Puis après ça, ben commencez avec un montant raisonnable. La situation de chacun est différente, mais fixer un pourcentage, un objectif, fixer un pourcentage de mettre de son revenu de côté. Puis là, j'appelle ça se payer en premier. Ça sort, faut que tu le faites là de façon automatisée. Ça sort du compte à chaque paye. Mais que, si vous êtes capable, commencez par 10 %. Puis faites-vous bien guider, là, tu sais. Puis on va le maximiser, là. Est-ce que pour toi, c'est le REER le meilleur endroit? Est-ce qu'on devrait aller du côté du CELI pour se garder des réserves, tu sais? Fait que ça, on va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu, un petit peu plus tard.
Puis j'ai une autre idée, Marc-Antoine Reed. Magasiner ses assurances. Vous n'avez pas idée à quel point, à chaque année, puis toi puis moi, on est à peu près dans la même catégorie d'âge, là. Moi, j'ai été élevé par des gens qui disaient « Sois fidèle à l'entreprise avec qui tu fais affaire, parce que si t'es un bon client fidèle, tu vas toujours avoir le meilleur service et tout ça. » À un moment donné, ça a changé, ça. Si t'es un client fidèle, ben, ils se rendaient compte que tu ne suivais pas nécessairement les autres entreprises, fait qu'ils continuaient d'augmenter les services année après année. Je nommerai pas des entreprises, mais on les connaît. Puis là, tout d'un coup, t'avais des rénovations dans la rue où on passait de la fibre optique. Puis là, t'avais quelqu'un qui arrivait et qui disait « Hey, c'est quoi t'as comme service câblé? OK, parfait, voici, moi, je te le fais pour 100$. » Là, toi, tu te regardais ça, tu disais « T'as peu, là, tu me fais pour 100$. » Moi, ça fait 3 ans que je paye au-dessus de 150$. Fait que là, t'appelais la compagnie. « Hey, toi, tu me charges 150$. » J'ai le représentant qui est là qui me charge 100$. « Ah, ben finalement, vous êtes un bon client.
Hein?
On va vous faire ça au même prix que la compagnie qui a de la fibre optique fait. » Puis là, tu venais de descendre ça de 50$. Compagnie d'assurance, c'est la même affaire. Si tu ne magasines pas, ils vont t'augmenter ça. Mon chum Dan, qui a travaillé pour les assurances pendant des années, m'a dit « Yann, la première lettre qu'on t'envoie pour ton renouvellement d'assurance, là, c'est des actuaires qui ont travaillé là-dessus, puis c'est une lettre qui est programmée, avec un pourcentage qui est programmé. » Fait que ça, là, prends-les, mets ça au vidange.
T'es toujours éligible pour un autre abaisse, si t'appelles.
Appelle ton courtier en assurance, puis regarde, moi, j'ai eu mon renouvellement d'assurance, c'est trop cher, je suis en train de magasiner, fais-moi ça moins cher, il va te le descendre. Fait que ce montant-là que tu vas sauver, tu peux le mettre pour plus tard.
De côté, ouais, exact. Ben oui, exact. Toutes les fois que vous prenez une bonne décision puis sauver des sous, essayez de le réinvestir de façon productive, le faire travailler pour vous, et l'effet des intérêts composés, c'est puissant. Là. Si vous avez un bon investissement puis du temps, c'est incroyable. Donc là, c'est pour ça que je motive toujours souvent les gens. Retardez pas plus tard. La même stratégie applicable à quelqu'un de 55 versus 35 ans, l'effet qu'elle va faire pour celui de 35 ans est monstre par rapport à celui qui est quelques années devant la retraite seulement. Fait qu'on avait fixé faire un budget. Quatrième point, puis c'est un peu ce qu'on est en train de faire ce matin puis ce qu'on va faire à chaque semaine, c'est de s'y intéresser. nous, on va essayer. On va motiver les gens à s'y intéresser. Exact, c'est ça. Tu sais, pas besoin de se transformer en rat d'investissement. Là. Juste un petit peu plus, une petite dose à la fois. Un article.
Pas besoin de connaître la bourse et c'est haut et c'est bas. Là.
Un article, écouter notre chronique, ouvrir ses relevés. Regardez, maintenant, c'est plus en ligne. Mais tu sais, l'ouvrir, la regarder un peu. La plupart des gens, je le vois, moi, dans mes systèmes qui se connectent. Puis c'est quand la dernière fois qu'il s'est connecté. Puis j'incite les gens à le faire. Mais des fois, là, ça fait longtemps que la personne. Je trouve ça touchant. Je me suis dit, vraiment une grande confiance en moi, mais c'est aussi un signe qu'il y a un petit peu de travail à faire pour moi, pour avoir de l'intérêt puis surveiller ces choses. Fait que si intéressé, j'ai parlé comme cinquième point de s'éduquer au risque, comment ça peut se transformer. Un portefeuille modéré, tout à l'heure, je vous disais que c'était 1 000, c'était transformé à 1 813 000. Là, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais 1 000 c'était beaucoup en 1935. C'est vrai, mais c'était 22 000. Si je fais juste le rajouter pour l'inflation, 22 000 à 1,8 million. C'est un très bon investissement. Puis le même portefeuille, là, sur 55 ans d'histoire, à partir de 1970, portefeuille modéré, n'importe quelle période de 5 ans roulant n'a jamais donné un rendement négatif. Fait que ça, c'est intéressant de montrer ça au client et de dire, écoute, ton certificat de placement garanti, ben, tu vas travailler fort et longtemps pour y arriver. Si tu acceptes une certaine dose de risque sans dénaturer le client puis tu as la bonne approche, ben, ça va faire une méchante différence pour son futur. Puis le dernier point, puis je propose d'en parler aussi lors d'une autre chronique aussi, les critères, comment bien, tu sais, toi, tu dis que tu es bien guidé depuis longtemps, mais c'est quoi les critères pour choisir la personne qui va nous accompagner? Moi, je dis comme cinquième, comme sixième truc de base, de bien s'entourer, d'accepter, de te poser la confiance, pas aveugle, mais de poser la confiance en une bonne personne qui a une bonne approche.
Puis avoir l'humilité
se laisse influencer.
Exact. Puis avoir l'humilité aussi de dire, regarde, moi, là, les finances, je connais rien à ça. Puis donner ça à des professionnels qui sont quand même capables de vous structurer. Hey, j'ai plein de commentaires, Marc-Antoine Reid. C'est le fun de voir que tu as autant d'impact. Peut-être qu'on se fera un genre de questions-réponses dans les prochaines semaines.
Oui, parce qu'on a des bons commentaires, des gens qui vont prendre leur retraite de la construction, des gens qui ont déjà fait une faillite, comment je fais justement pour regagner du capital, refaire mon crédit, regagner du capital. On a des excellentes questions par texto.
Frank, c'est un exemple, puis on va terminer là-dessus. Il dit, question pour votre conseiller financier. Je suis un gars célibataire qui fait moins de 60 000 par année, déjà fait une faillite, puis j'ai déjà aussi une proposition dans la poche arrière. Il me reste jamais de maudite scène dans mes poches. Y a-t-il quelque chose à faire avec un conseiller? J'ai 45 ans, j'ai absolument rien de planifié. Ben, c'est le temps d'agir maintenant, parce que te condamner à rien faire pour les 20 prochaines années, c'est de condamner à la misère où ce sera le gouvernement qui va te prendre en charge.
C'est sûr. C'est
tu veux pas ça.
Ouais. Ben, en fait, comme réponse, je dirais, dans la chronique aujourd'hui, il y avait quand même plusieurs points. Là,
exact.
De commencer par, dans la mesure de ce que lui a comme obligation, là, je sais pas s'il y a un enfant ou qu'est-ce qu'il y a comme dépense, mais c'est de se fixer des objectifs. Donc là, probablement qu'il n'y a plus de mauvaise dette. Il y en a déjà eu, je suppose, là, avec sa situation. Mm-hmm. Mais là, ce serait commencer à mettre un petit pourcentage de son salaire de côté puis d'oublier ces sommes-là. Là. Après ça, il faut qu'il rebâtisse un petit peu son crédit. Là.
Ça peut être tough à évaluer aussi. Parce que si la personne est à Montréal, 60 000 par année à Montréal pour se loger, c'est tough.
C'est ça, mais par contre, si c'est en Gaspésie, 60 000...
C'est le paradis.
C'est bon.
C'est exact,
T'es riche comme, Max Larouche.
Ouais, la fameuse expression. Hein?
Marc-Antoine Reid, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Puis on se reparle la semaine prochaine.
Oui,
salut mon chum.
Merci beaucoup.
Salut,
on fait une courte pause, 9h19. Boulevard 102.1. Marceau.